7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons mode, comme chaque mois, gros plan sur les tissus africains. En fait, ce sont bien plus que des tissus. Ces textiles du continent racontent un patrimoine, une symbolique, avec des techniques transmises au fil des siècles et très mal connues dans le reste du monde. Quand vous avez entre les mains un kente du Ghana, un ndob du Cameroun, un voile mauritanien, un faso d'Anfani du Burkina Faso, forcément, vous ressentez une émotion. Ça ne ressemble à rien d'autre. Les motifs, les tissages, les techniques de teinture, longues et épuisantes. Comment assurer le maintien d'une fabrication artisanale et locale? Et d'ailleurs, ces textiles ne connaissent pas les frontières coloniales que je viens de citer parce qu'ils vivent par les communautés et par les mémoires. Alors que la fripe et le wax sont bien sûr beaucoup moins chers, partout sur les marchés des villes, appelez-nous les voisines et les voisins pour nous raconter vos découvertes sur votre patrimoine. Appelez-nous surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 7 64 45 51 41. À mes côtés, notre partenaire Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tout le monde.
Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du magazine Brune. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro du magazine, vous publiez un article sur le plagiat de la création africaine en général dans la mode. Et vous nous direz si le retour à des matières ancestrales complexes peut protéger la créativité africaine. Nous sommes aussi en ligne avec le créateur camerounais Imane Ayissi. Bonjour Imane.
Bonjour, bonjour.
Depuis 2020, vous êtes le premier styliste subsaharien à intégrer le calendrier officiel de la semaine de la haute couture à Paris. Vous êtes sûrement un peu fatigué en ce moment, Imane Ayissi, parce que vous avez fait défiler votre toute dernière collection il y a quelques jours, le 15 juillet dernier, me semble-t-il, de haute couture Place de l'Étoile.
Oui, exact, c'est exact. Et c'est la bonne fatigue, parce qu'on sort de saison de travail.
Bonne fatigue, parce que beaucoup de succès, bien évidemment, toujours. Également au téléphone avec vous, Yemi Akobi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de la marque béninoise Olowu. Vous faites fabriquer vos teintures, vos motifs que vous créez vous-même. Vous nous parlerez aussi de ces procédés difficiles et du droit de propriété aussi sur vos créations. En fin d'émission, un tout autre sujet, nos portraits de l'Afrique qui gagne avec aujourd'hui l'histoire de Raouf Malazoué, ce jeune Togolais a construit sa voiture de A à Z, entièrement avec des matériaux de récupération. Et notre reporter Raphaël Constant l'a rencontré à Lomé. Et je peux vous dire que vous pouvez aller faire un tour sur notre page Instagram ou sur Facebook, ça vaut le coup d'œil. Allez, vous nous appelez en tout cas, nous parlons des textiles africains, 33 7 64 45 51 41. Beaucoup de réactions sur le sujet, sur WhatsApp, sur nos réseaux sociaux. Aliou à Cotonou nous dit « Dans la communauté Bariba, dont ma mère est originaire, le tissu traditionnel que les gens portent s'appelle le takou. Mais moi, j'adore le bogolan, qui est plus un tissu du Sahel, hein, n'est-ce pas Marie-Jeanne ?»
Du Mali.
Mali,
oui, oui,
plus Mali, exactement. Comme les Occidentaux achètent le bogolan ici à Cotonou, eh bien les revendeurs montent les prix. Du coup, ben je me rabats sur le wax et sur le basin. Et oui, forcément. Ouseynou, à 20 ans, il est à Louga, dans le nord-ouest du Sénégal. Moi, j'aime le rabal du Sénégal. C'est un tissu, un tissage très sophistiqué, hein, Marie-Jeanne?
Oui, oui, tout à fait. Que font les tisserands Mandjak de Casamance et qui est très prisé à Dakar.
Et qui, finalement, accompagne les différentes étapes de la vie, hein, comme oui. Beaucoup de ces textiles. Mmh. Hein, à la naissance, on enveloppe le bébé, ensuite il y a le baptême, la circoncision, le mariage. Et le rabal est aussi la dernière couverture pour le dernier voyage.
Pour le linceul, oui.
Dans l'au-delà. Ouais. Et on est mieux paré hein, pour partir comme ça, pour quitter la terre. Et puis il y a ce cri d'alarme aussi de Valentin à Yaoundé. Le patrimoine textile africain est en voie de disparition parce que cette industrie textile importée, fait de la copie et a envahi les marchés. On en discutera. 33 7 64 45 51 41. Appelez-nous, on a envie d'en discuter avec vous de vive voix.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Imane Ayissi, Yemi Akobi, vous qui êtes les mains dans le tissu, si je puis dire, est-ce que vous avez le sentiment que le patrimoine textile de votre continent est en danger, Imane Ayissi?
Je crois qu'il y a il y a pas mal de réflexions à faire sur le sujet, sachant que, bien sûr, oui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà disparues et qui sont en voie de disparition. Donc, c'est à nous, les Africains, de se réveiller et de prendre conscience et de revoir comment préserver ce patrimoine et comment le promouvoir, comment le faire connaître aussi. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est le rôle de la presse. La presse de la mode, c'est le rôle des designers africains.
Mais est-ce que vous-même, vous connaissez en tant que créateur, est-ce que vous-même, vous avez des difficultés d'approvisionnement?
Oui, il y a énormément de difficultés, parce qu'on va voir que la plupart des gens qui sont derrière des petites machines à l'ancienne, souvent, c'est des personnes déjà à un âge avancé. Donc, on va voir que les jeunes générations, souvent, pour faire tout ce qui est des métrages de tissu, tissé à la main, à l'ancienne, ce qu'on appelle le pain tissé. On va revenir, je pourrais citer les kentés, tu sais, et les variations des kentés qu'il peut y avoir, et autres tissus tissés à la main. Les générations trouvent que c'est trop long à faire. Donc, je pense que peut-être, il faut réfléchir comment moderniser ce domaine pour pouvoir faire avancer cette attraction du patrimoine africain traditionnel. Comment on peut le amener à l'état moderne, donc moderniser les machines, la manière de fonctionner, les grammages des fils et commandes, et rendre le plus moderne.
Imanayissi, on a un petit peu de mal à vous entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous. Je vous laisse vous mettre un petit peu plus au calme. Je m'adresse à vous, Yemi Akobi. Vous travaillez les motifs, vous travaillez les teintures. Est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés pour trouver des teinturières, pour réaliser vos propres motifs et vos textiles?
Moi, bonjour. Je vais venir un petit peu en contradiction, enfin pas vraiment contradiction, mais par rapport à Iman, en disant que c'est vrai, le tissu africain a tendance à disparaître, mais pas vraiment à disparaître. C'est parce qu'on n'a pas donné l'amour on a longtemps hésité avant de le ramener au bout du jour, mais aujourd'hui c'est parti. C'est vrai aussi que ce tissu n'est pas, le véritable tissu africain n'est pas porté par beaucoup, parce qu'il faut reconnaître que c'est un tissu dont la fabrication est onéreuse. Le coût d'origine de ce tissu est beaucoup plus cher que les tissus importés. Mais cela n'explique pas n'explique pas qu'on ne fasse pas la promotion de ce tissu. Le tout reste dans la manière dont on fait sa promotion et qui sont les personnes qui font la promotion de ce tissu. Quand je prends par exemple la dentelle de Calais, c'est pas
alors là, vous citez un textile typique. Vous citez un textile typiquement français, mais qui est aussi très menacé et qui est aujourd'hui largement fabriqué en Chine.
Il y a ce côté luxueux qui est derrière. C'est pas tout le monde qui peut le porter, mais ça reste une forte identité de la France.
Oui.
Pourquoi ne pas faire de nos tissus africains aussi des tissus aussi forts, par exemple, que les créateurs, mais vraiment les créateurs qui ont une certaine éthique, avoir envie de faire travailler véritablement les Africains, travaillent ces tissus, même si c'est en petite quantité, mais dans l'industrie de la mode de luxe, je le reconnais, tout en sachant que le luxe, même si c'est 1 ou 2% de l'économie, ça fait face au chiffre quand même en des milliards. Ça a son mot à dire dans l'économie de notre pays.
Dans l'économie et aussi dans l'image culturelle d'un pays, bien évidemment. Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Une image qui nous aidera à aller loin. Une image qui, aujourd'hui, est la première des choses pour laquelle nous devons nous battre.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, vous êtes avec nous en studio. Comment aujourd'hui les textiles africains, Imanayissi nous disait, c'est trop long à fabriquer, les jeunes ne veulent plus faire ça. Alors comment faire pour préserver ce patrimoine qui est un patrimoine avant tout culturel, symbolique, qui a une dimension sacrée dans ces tissus à l'origine, hein?
Oui, alors moi je pense qu'on oublie que les textiles que l'on voit souvent, ce sont des textiles d'apparat. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Abidjan à une manifestation, c'était le compendium des femmes ivoiriennes, et il y avait deux reines Zima, donc de l'ethnie Akan, qui était là avec des grands boubous, des grandes toges, en fait, pas des boubous, mais des grandes toges en pagne tissée qui étaient d'une beauté absolument incroyable, dans des couleurs exceptionnelles. Elles avaient des bijoux opulents. Et en fait, moi, je me suis prosternée devant elles, même si je ne suis pas de leur confession ni de leur origine. Mais je me suis prosternée parce que, en fait, le tissu symbolisait tellement leur royauté, tellement leur statut. Et on oublie que très souvent, le tissu africain est un marqueur social. Donc, et c'est pour ça, c'est-à-dire que quand on demande à un tisserand de faire un travail sur un tissu, et qu'il prend du temps, il ne peut pas le faire pour quelqu'un qui est quelqu'un d'ordinaire. Il va le faire parce que c'est le marqueur social. Et que s'il le fait bien, on pourra dire, tiens, c'est tel tisserand qui a fait ce pagne pour tel roi ou pour tel chef ou pour telle reine. Et ce qui est important. Donc, le tissu africain n'est pas un tissu de vulgarisation. C'est vraiment cette espèce de marqueur qui fait que c'est comme la dentelle de Calais en France. On n'en porte pas tous les jours parce que c'est un tissu qui est onéreux. C'est une technique qui est très très onéreuse, qui est très longue, qui a une histoire et qui a participé à ce
notamment qu'on appelle à Versailles,
notamment à Versailles, mais qui a participé, si vous voulez, à l'éclosion de cette culture de la mode en France. Donc, et là, c'est la même chose.
Alors, je me tourne vers vous, Imanaï, ici, vous qui êtes un créateur dans la haute couture aussi en France. Les textiles africains aujourd'hui, comment vous faites pour en même temps les sortir du carcan de l'aristocratie coutumière africaine?
Alors, ce que je fais déjà la démarche d'admiration, parce qu'ils adorent les belles choses, ils adorent toutes les choses qu'ils ont, l'histoire.
Vous vous prosternez aussi comme Marie-Jeanne?
Tout à fait, elle a tout à fait raison. Donc, elle a dit que Marie-Jeanne a dit quelque chose de très important. Cet issue-là représentait quelque chose de grande valeur. Donc, je crois que dans chaque famille aisée, chaque famille avait droit à avoir un pagne qui sert de cérémonie pour toute l'année ou toutes les fêtes qui vont arriver pour la famille, dont les naissances, peut-être les mariages ou quoi que ce soit. Et cette pièce de tissu doit être gardée comme un diamant. Donc, ça explique beaucoup de choses. Ce qui rejoint, c'est que Marie-Jeanne venait de dire que ce n'était pas peut-être à porter pour le profit de tout le monde. C'était des tissus qui étaient pour les personnes très importantes, pour faire des cadeaux importants aussi. Mais maintenant, quand moi je veux m'approprier ces tissus-là, je veux les reproduire, donc je revisite un peu l'histoire, je vais voir les tisserands, les artisans, et j'échange avec eux. Puis je vois ce qu'il y a à faire. Et c'est ce qui, là où ça devient intéressant, parce que j'ai besoin de montrer ça aux yeux du monde, que l'Afrique a son propre patrimoine textile qui existe, même s'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas.
Et je dois dire, Imanaï, ici, que vos collections sont vraiment époustouflantes de créativité, qu'elles donnent à chaque fois une sensation de surprise, avec des couleurs, des motifs qui s'entrechoquent de manière extrêmement subtile. Quand vous créez vos vêtements, quand vous recevez par exemple des bandes tissées très étroites, qui sont tissées sur des métiers traditionnels, parfois d'une dizaine de centimètres, comment vous faites pour créer? Comment vous faites pour créer une robe à partir d'un raffia brut? Comment vous travaillez à partir d'écorces d'arbres tapées pour en sortir un gilet avec des pétales de fleurs? Ça semble presque irréel, en réalité, cette transformation.
On pourrait dire que c'est un jeu d'enfant ou alors un conte des fées dans un jeu d'enfant, de merveille, oui. Mais non. C'est tout un travail. Donc, je veux d'abord imaginer les silhouettes. Je veux imaginer les fibres que je veux en parlant de tout ce qui est raffia. Le raffia, je le reçois brut. Donc, on fait les couleurs. Je les lisse, je les travaille pour les donner les anses. Et comme je les baptisé tous les franges, comme vous voyez, quand je fais les vestes ou les manteaux ou les robes du soir, je borde souvent avec beaucoup de franges. J'ai baptisé ça les fouets de raffia. Ce qui devient très, très couture et très luxe, parce que quand on voit une robe qui est bien taillée et que tout le bord où le dos est bordé de ces fouets de raffia, ça fait de la musique en même temps.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a ce froufrou, il y a ce froufrou et il y a ce mouvement, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'air qui s'engouffre dans les fibres de raffia et il y a tout un mouvement qui accompagne la démarche de celle qui le porte.
Tout à fait, c'est vraiment la liberté du mouvement. En parlant de tout ce qui est les écorces d'arbres tapées, c'est pareil, je les reçois brutes et puis je les travaille moi-même, je fais les formes, on fait des couleurs et puis on les pique sur les robes faites déjà, donc on les brode par-dessus, fleur par fleur, pétale par pétale.
Ces écorces d'arbres tapées, elles viennent d'où exactement?
Donc, parfois, ça vient du Cameroun. La plupart des obombes et écorces d'arbres tapés, ça vient du Cameroun. Tout ce qui est raffia, ça vient du Cameroun, Madagascar, ça peut être du Gabon aussi ou Guinée équatoriale. Tout ce qui est de Kente, c'est plutôt Ghana, Côte d'Ivoire. Et je travaille aussi les rayures qu'on appelle, qui est l'équivalent des faces d'Anfani le côté ancien Haute-Volta. Au Cameroun, dans le royaume Bamoun, on a les mêmes rayures tissées à la main qu'on appelle un tuneré. Mm. Donc, je les travaille aussi. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment la ressemblance. Quand on part d'un coin d'Afrique à un autre, il y a des choses qui peuvent nous rapprocher et qui nous ramènent qu'autrefois, on était tous le même peuple et que c'est les frontières qui nous ont séparés.
Oui, nous étions tous le même peuple et finalement, la fabrication se tournait vers les matières naturelles disponibles, hein, vers ce qui poussait, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Oui, bien sûr. Et puis, le coton a été de tout temps, en fait, sur l'Afrique, une des matières premières les plus usitées. Mais il était peu teint, en fait. C'est-à-dire qu'on teignait du blanc, on tissait du blanc, du coton blanc, et ensuite, on travaillait avec souvent des écorces d'arbres ou avec de la boue, par exemple. Par exemple, les premiers bogolans étaient faits avec de la boue. Oui. C'est pour ça qu'il y a de la boue et de
cette couleur de terre.
Hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a cette couleur de terre. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on voit le wax qui est une explosion de couleurs primaires très, très dense, alors que l'Afrique traditionnelle n'était pas du tout dans ce schéma coloriel. Parce que, en fait, on n'utilisait que des teintures végétales. L'indigo, on utilisait la boue, on utilisait des noix aussi. Donc
des couleurs beaucoup moins saturées, finalement.
Des couleurs beaucoup moins saturées, alors que là, en fait, les grands marchands coloniaux occidentaux, notamment donc du nord de l'Europe, ont imposé cette explosion de couleurs, ces bouquets extraordinaires qui n'ont rien à voir finalement avec des traditions africaines.
Alors bien sûr, on l'a dit au début de l'émission, tous ces textiles, ils sont rares, ils sont très longs à fabriquer, d'où à terme probablement la pénurie de main-d'œuvre et de savoir-faire pour fabriquer ces textiles. Et il y a vraiment urgence pour les préserver, surtout si les jeunes trouvent ça trop long à fabriquer, n'ont pas envie de se diriger vers cet artisanat si précieux. Vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole, les voisines et les voisins. Que signifient pour vous ces textiles? Sont-ils en danger? Comment les faire mieux connaître, mieux les préserver? Alice est au téléphone avec nous de Bobo-Dioulasso au Burkina. Bonjour Alice.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Alors vous nous avez appelé Alice parce que vous êtes présidente et cofondatrice d'une coopérative de femmes qui sont handicapées, non-voyantes. Et vous fabriquez du faso d'Anfani, c'est bien cela?
C'est ça.
Et également du coco d'Onda?
Oui, effectivement.
Et vous avez dit au Standard que votre coopérative a une forte demande et que les gens comprennent bien la qualité du tissu. Finalement, vous n'avez pas besoin de réexpliquer à quel point ces tissus sont précieux.
Oui, bon, en fait, la demande est tellement forte du moment où on a créé la coopérative en 2019 avec 20 femmes. Et à nos jours, nous sommes à 69 femmes que nous employons.
Ah oui,
donc
d'accord.
C'est ce qui explique un peu la forte demande.
Et vous n'arrivez pas à fournir la demande?
Oui, vraiment, la demande est vraiment forte. La demande est vraiment forte. Parce que beaucoup ont compris que le tissu, vraiment, il résiste à la chaleur. Et la teinture que nous utilisons aussi n'est pas nocive à la santé corporelle.
Donc c'est une teinture, teinture végétale?
Oui, c'est de la teinture bio.
Et c'est un coton du Burkina.
Voilà, le tissu est purement du coton. Le coton est produit au Burkina.
Et vous produisez combien de pagnes chaque mois?
Environ 1000 pagnes, quand c'est manuel.
Comme ah oui, 1000 pagnes à la main. Et voilà, qui sont vos clients? Des Burkinas, des Burkinabés,
Nos clients sont un peu partout, du Burkina. Il y a nos clients de l'extérieur, le Mali, la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Voilà. Les États-Unis, ils prennent plus les rideaux, les draps, voilà, et puis les tissus pour les canapés.
Vous avez un message à faire passer par rapport à ce patrimoine, Alice?
Bon, il faut dire qu'on a un patrimoine qu'il faut préserver vraiment, parce que là, le Burkina Faso, avec son tissu, est vraiment riche. Voilà, et nous sommes vraiment fiers de ce patrimoine, vraiment.
Est-ce que vous formez d'autres femmes sur place pour assurer le renouvellement des générations?
Actuellement, on a une trentaine sur la liste qui demandent à être formées, mais comme c'est la période de l'hivernage, voilà, on va les récupérer en septembre.
D'accord. Et il y a des femmes plus jeunes aussi qui demandent à être formées?
Oui, il y a des petites filles de 18 ans, 22 ans, voilà. Et il y a des femmes aussi de 40 ans, 50 ans qui demandent à être formées. Ça, c'est compte tenu vraiment de la situation familiale précaire.
Oui. Eh bien, on était bien d'accord, hein, l'avenir du patrimoine africain passe par les femmes, Marie-Jeanne Sermin-Thomas.
Oui, oui, tout à fait. Cette histoire est très intéressante parce que le styliste Bazemse s'est rendu à Bobo Dioulasso il y a quelques années. Il est tombé amoureux de ce textile. Et depuis, en fait, la demande a progressé de façon très importante. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu sur Internet, sur un site qui s'appelle How We Made It in Africa, une interview donc, d'un des responsables de l'USAID qui disait qu'il y avait une très, très forte demande aux États-Unis de textiles africains de haut de gamme. Et qu'il fallait vraiment saisir le marché parce qu'avec le système de la GOA, en fait, on pouvait envoyer ces textiles de façon détaxée donc sur le continent américain. Et je sais qu'avant la fin de l'année, il y aura une grosse manifestation avec des créateurs africains pour qu'ils puissent s'exposer. Mais cette personne a bien précisé qu'il fallait des produits assez luxueux, des produits haut de gamme, des produits qui avaient une histoire, une authenticité, parce que la demande est très, très forte. Et je crois que le public noir américain commence justement à se sentir encore plus proche donc, de ses origines africaines grâce au textile.
Imana, ici, est-ce qu'aujourd'hui, la reconnaissance doit forcément passer par l'étranger? Vous êtes basée à Paris, vous créez pour la haute couture française des créations culturellement africaines, on va dire. Hein. Est-ce qu'on en est encore là, finalement, Imana Yissi?
Je pense que Paris reste Paris, mais je ne dirais pas que toute reconnaissance doive passer par Paris. Si on veut parler de la haute couture mondiale, forcément oui. Mais si on veut parler tout court de la mode, que ce soit du prêt-à-porter ou quoi que ce soit, même au Cameroun, même au Sénégal, il peut y avoir de la reconnaissance.
Vous avez entendu le témoignage d'Alice? Vous avez
de la réussite, comme on dit, pour aller à l'exil de la réussite. Sur place, on peut travailler, faire sa route et être reconnu aussi. C'est à nos pays aussi de faire cet effort-là, de reconnaître le talent de leur ressortissant d'un pays. Il ne faut pas forcément aller à l'étranger. L'étranger, quand on veut parler des produits à l'international, comme la haute couture, ça oui. Mais localement, il y a des choses qui doivent se passer localement, au Cameroun, au Sénégal, en Guinée équatoriale ou peu importe. Et il doit y avoir une reconnaissance aussi qui accompagne cela.
Message pour les rappeurs très riches, très regardés du continent, pour les politiques, pour mieux comprendre les enjeux de cette créativité du continent. Vous restez tous avec nous et quant à vous les voisines et les voisins, vous pouvez bien sûr nous raconter vos coups de cœur pour les textiles du continent africain, nous donner aussi de l'espoir, comme Alice que nous remercions qui nous a téléphoné de cette coopérative de Bobo Dioulasso et qui ne peut pas fournir à la demande et qui croule aussi sous les demandes de femmes qui souhaitent être formées. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Tsipanchak. I'm on my grind, every day by the fine. Chilling with the devil for all kinds of stuff. This is the life I chose. I'm on my grind, every day by the fine. Chilling with the devil.
devil for Einstein. This is the life of Joe.
It's getting lonely at the top. Many them are trying to take your spot. And then celebrate when you're down. Life is just a roller coaster ride. It's getting lonely at the top. Many them are trying to take your spot. And then celebrate when you're down. Life is just a roller coaster ride. So call me Mansa Musa, I'm feeling wealthy now. The city don't run me, I run the city now. Put pressure under hate, I feel the love now. Been a long time coming, but what a life. Touchdown the six, what a flight. Moulin Rouge, one hell of a night. I got a city on lockdown, it's me against them and shit. The devil is the enemy within. Go.
I'm on my grind. Now. Every day fighting, fine.
Oh, Lord.
Chilling with the devil for all kinds of style. This is the life I chose. I'm on my grind. Every day fighting, fine. Chilling with the devil for all kinds of time. This is the life I chose.
It's getting lonely at the top. Men them are trying to take your spot. And then celebrate when you're down. Life is just a roller coaster ride. It's getting lonely at the top. Men them are trying to take your spot. And then celebrate when you're down. Life is just a roller coaster ride. Forgive me if you may, I said what I said. Prefer to eat from my bread. Holy grail and the last supper. King and the kingmaker. I rise with the stars, so I guess I'm the star maker. I choose you when they choose me. Hold you down like a groupie. Now you wanna destroy me? Never! The devil is the enemy within. Go!
I'm on my grind, grind.
Now!
Every day fighting, fine.
Oh, Lord.
Chilling with the devil for all kinds of style. This is the life I chose. I'm on my grind, grind. Every day fighting, fine. Chilling with the devil for all kinds of style. This is the life I chose.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et nous regardons en face le patrimoine textile du continent africain avec nos invités, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, notre fidèle partenaire avec le magazine Brune, Imana Issi, la haute couture à Paris, qui est un créateur camerounais qui est connu maintenant dans le monde entier avec des collections extrêmement originales et qui milite pour ce patrimoine textile africain. Il est au téléphone avec nous. Et Yemi Akobi, qui est une créatrice de la marque béninoise Olowu et qui fait fabriquer, qui dessine ses motifs, qui travaille avec les teinturières aussi au Bénin. Ils sont en ligne avec nous et bien sûr, vous nous téléphonez pour nous donner votre point de vue sur ce patrimoine textile africain. 33 7 64 45 51 41. Ndeye est à Dakar en ligne avec nous. Bonjour Ndeye.
Bonjour Emmanuel.
Ndeye, vous êtes...
Bonjour les voisins et les voisines.
Merci à vous d'être, de nous contacter parce que vous êtes créatrice de linge de maison. Je crois que vous travaillez à partir du pagne manjac.
Oui, tout à fait. Avec le pagne manjac.
Qu'est-ce que vous fabriquez exactement? C'est un pagne, il faut le redire, hein, pour nos auditeurs, on a le droit de ne pas savoir exactement, de ne pas connaître l'étendue des textiles, hein, Marie-Jeanne. Mm-hmm. Ce pagne manjac, c'est un
pagne tissé. En fait, le manjac, c'est une ethnie du sud du Sénégal, donc ils sont plutôt situés en Casamance, et ils seront très très réputés pour leur technique de tissage. Donc, en fait, quand on dit pagne manjac, c'est surtout un pagne fait par les hommes de cette ethnie.
Ça donne un aspect, quand on le voit comme ça, presque comme une broderie en fait, hein, tellement le tissage est sophistiqué.
Alors le tissage est très sophistiqué, c'est un tissage qui est très serré, mais surtout il y a un aspect brillant, presque lustré, qui est très très intéressant. Donc ça fait toujours un produit de très haute qualité visuelle et aussi même au toucher. Donc on le reconnaît tout de suite effectivement.
Ndeye, on vous écoute à Dakar.
Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Le pagne manjac est un produit de qualité qui est fait traditionnellement. Et aussi, c'est un rabal, comme on dit, les pagnes rabal. Et aussi, ils font des châles qui ont une largeur de 75 cm qu'on peut assembler et faire des parures de lit avec et accessoiriser avec ces rabals. C'est ce que je fais, moi. Et depuis un moment, on a remarqué que les acteurs portent des boubous, des chemises qui sont accessoirisées avec ce pagne rabal, ce pagne manjac.
Quand vous dites les acteurs, quand vous dites les acteurs, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce sont des créateurs. Les créateurs mettent une touche de ces produits locaux, le pagne, je veux dire, pour accessoiriser leur création, leur boubou ou les chemises que portent certains acteurs et même certains leaders politiques, à l'image de Ousmane Sonko, qui depuis un moment, il est en train de promouvoir la créativité locale et le savoir-faire local. Toutes ces parutions, il le fait avec eux, il porte des chemises ou des boubous qui sont typiquement, on peut dire, avec une touche africaine.
Thomas Sankara, Thomas Sankara au Burkina a laissé des traces. Hein.
C'est, oui, tout à fait.
C'est pas mal, mais c'est vrai que c'est une vraie question, ça, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, que les leaders politiques, que les personnalités très en vue, qui sont photographiées des centaines et des milliers de fois, ce sont vraiment les personnalités les plus capables de démontrer la préciosité de ces textiles, finalement.
Oui, alors paradoxalement, quand on parle de mode, on pense femme, n'est-ce pas ? On parle plutôt de Jackie Kennedy que du... Bon, on parle de l'élégance de JFK, mais on parle plutôt de la beauté, de l'élégance de Jackie Kennedy. Or, le problème, c'est que nos premières dames, qui pourraient être, si vous voulez, des icônes de mode, sont souvent absentes. Elles sont souvent en retrait de la scène politique ou même de la scène médiatique. Et elles pourraient être aussi des faire valoir, entre guillemets, de ces traditions, de ces vêtements, de ces textiles. Et elles ne le sont pas, malheureusement, très souvent. Soit
elles portent soit des vêtements européens, soit un banal wax.
Voilà,
finalement.
Soit un banal wax, ou alors quelque chose qui est plus consensuel, comme si, en fait, le fait de porter, par exemple, un kente ou un autre vêtement, ou un velours du Kasaï, serait problématique. Donc ça, c'est une vraie problématique. Donc, et nos leaders, malheureusement, en dehors de quelques-uns, par exemple l'ex-président Roch-Marc Christian Caboret, avait décidé il y a quelques années que chaque vendredi, je crois, que tous les agents de la fonction publique devaient porter le faso d'Anfani. Et ça, ça est rentré dans les mœurs. Et même pour les écoles, il y avait des tenues, donc pour les scolaires, en faso d'Anfani. C'était une façon de promouvoir le tissu traditionnel. Malheureusement, donc dans la majorité de nos pays, soit c'est la tenue, si vous voulez, musulmane, soit c'est effectivement le costume européen.
Alors on le voit bien dans les témoignages, hein. Il y a le Burkina qui émerge, il y a le Sénégal toujours avec cette fierté sur le consommer local. Et merci à vous, Ndaï, d'avoir été en ligne, de nous avoir... Merci à vous de nous avoir contactés. Mais il y a le message, par exemple, à Lomé au Togo de Kilim qui nous dit le problème ici, c'est qu'on ne valorise pas ce qu'on produit. On a un pagne, le tcha-tcha. Aucune considération pour ce pagne. Heureusement, les artistes les remettent à la mode. C'est dire la responsabilité de ces personnalités. Jemima nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Jemima.
Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour les voisines et les voisins.
On vous écoute.
Oui, moi je vis en République démocratique du Congo. Moi j'utilise, donc je suis créatrice d'accessoires, mode ou tableau Miro. J'utilise les tapis Kuba. Donc les tapis Kuba, c'est un tissu fabriqué à partir de fibres tirées uniquement de feuilles d'un palmier à 20 adultes. Donc, ce savoir-faire ancestral est utilisé depuis des siècles dans le royaume Kuba au Kasaï, en République démocratique du Congo. Donc, au départ, hein, le tissu était destiné à habiller les rois et les notables lors de grandes cérémonies de mariage, d'enterrement ou grandes réunions de réconciliation. Mais avec l'arrivée des colons belges dans les années 20, 30 et les missionnaires américains, le tissu a commencé à voyager tout doucement à travers le monde entier. Et c'est un tissu très, 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 très apprécié dans la décoration intérieure.
Ce tissu Kuba, Jemima, je sais que bon, il est donc fabriqué, comme vous l'avez dit, à partir du palmier à vin, qui d'ailleurs doit avoir plusieurs années d'existence. Hein, ce palmier, on peut pas, on peut pas prendre les fibres quand il est tout jeune. Mais ça donne forcément de quelque chose assez assez rêche. Comment vous faites pour l'assouplir, le rendre plus doux, ce tissu?
Alors, La technique, elle est très très simple, si vous allez même le suivre. Donc on utilise juste la coquille de l'escargot. Donc quand on a déjà récolté
les coquilles d'escargot,
tous les faits. Oui, oui. Donc les coquilles d'escargot vides. C'est cette coquille qui aide à atteindre, à peigner les tissus.
Ah. D'accord. Donc des coquilles d'escargot brisées, c'est ça, et vous frottez,
oui,
sur les fibres du palmier.
Oui, 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 oui. Donc, avant même de... Donc, on les fait d'abord sécher au soleil. Lorsqu'on trouve que c'est bien séché, c'est seulement à ce moment-là qu'on va récupérer les fibres et puis les peigner. Donc, on fait une sorte de... On est en train de passer la coquille sur les fibres, juste à ce que les fibres vont devenir tendres.
Extraordinaire, ces techniques. Merci beaucoup, Jemima, de nous avoir appelés de Kinshasa. Vous êtes nombreux à souhaiter vous exprimer. Nous sommes également en direct avec Kossi, qui est tisserand dans le nord du Togo. Bonjour, Kossi.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous.
Alors, vous êtes dans la fabrication locale de Kente, qui est plutôt ghanéen, le Kente.
Oui.
Pourquoi cela ?
Bah, écoutez, c'est un travail qui donne énormément d'argent, je dis ça comme ça. En partie, les clients sont des Ghanéens majoritaires. Donc ici, dans la région où je suis, il y a plus, surtout dans les vacances comme ça, c'est ça qu'ils font, quoi.
D'accord, on n'entend pas tout ce que vous dites, Kossi. Je suis désolée, on a beaucoup de problèmes avec les lignes téléphoniques aujourd'hui. Nous nous en excusons auprès des voisins et des voisines qui nous appellent. Mais en tout cas, tous vos témoignages, la sophistication des techniques, la créativité, l'envie aussi de préserver ce patrimoine. Peut-être êtes-vous très minoritaire, mais en tout cas, ça donne très envie de mieux faire connaître toutes ces techniques. Yemi Akobi, vous, comment, en tant que créatrice, vous vous sentez considérée à Cotonou aujourd'hui au Bénin ?
Ici au Bénin, je reconnais que pour le travail que je fais, c'est... comment dirais-je, très admirée et admirable, c'est vrai. Mais de l'autre côté, la frustration de pas mal de gens qui ne peuvent pas consommer ce que nous produisons, qui est en petite quantité. Nous, particulièrement, là où on a pris le pari de venir un petit peu diluer, entre gris, quand je dis diluer, tout ce qui est traditionnel, donc les tissus, ne pas procéder comme ça se faisait de façon ancestrale, le tissage classique. On a décidé de continuer dans cette issue traditionnelle, mais sur des supports beaucoup plus modernes, pour favoriser l'exportation de cette issue, pour permettre à un nombre un peu plus grand, pas trop grand, mais un peu plus grand, de consommer ces pagnes traditionnelles. Donc nous avons des supports nouveaux, nous, à savoir du voile, histoire d'aller dans le sens aussi de notre climat, du climat mondial aujourd'hui.
Est-ce que vous déposez des droits de propriété pour vos créations?
Vous touchez du doigt quelque chose de très important.
Dites-nous en quelques secondes, vraiment.
C'est un peu compliqué pour nous, parce que nous produisons, quand par exemple je prends une collection, on a peut-être une dizaine de motifs que nous devons sortir. Je parle du batik, pas parce que de l'indigo, amalgame que les gens font entre le batik et l'indigo. L'indigo, c'est par rapport à la couleur, le pigment bleu nuit qui est indigo. Mais le batik, donc, c'est tous ces motifs-là que nous créons sur du voile, de la dentelle et autres. Alors, 10 motifs que vous créez par collection, déposer les droits, c'est déposer les droits par motif. Et un seul motif est chiffré à près de 500 francs CFA, ce qui n'est pas élevé pour les artisans que nous sommes.
Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à l'émission. Merci infiniment. Les lignes téléphoniques étaient très difficiles aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. Merci Manaïssi d'avoir été en ligne avec nous. Merci Yemi Akobi. Merci à vous, Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Merci Emmanuel.
Dans quelques instants, ce sera nos portraits, l'Afrique qui gagne. Alors là, ça sera la rencontre avec un bidouilleur de génie, Raouf Maloisé. Il est au Togo. Ça sera juste après l'artiste nigérian CK.
Oh, be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Emeleme, ulo mama, honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't talk alone, oh no, no. What it feel like, what it feel like. Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you will never ever let me go? Hold on to me.
Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. Kiss me to the phone, yeah. Messing with my medulla, I can't talk alone. Oh no, no.
Emiliano, 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 no. Emiliano, 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 no. You're one in a million, in a million, in a million, no. My Emiliano, 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 no.
Sike, Emiliana, chez 7 milliards de voisins. L'Afrique qui gagne rencontre aujourd'hui avec Raouf Malazoué, 25 ans. C'est un jeune entrepreneur, autodidacte, bidouilleur, bricoleur depuis l'adolescence. Aujourd'hui, il répare des téléphones et des ordinateurs dans sa boutique à Lomé, au Togo. Mais il est surtout connu pour avoir conçu la RAF X, le premier véhicule tout-terrain made in Togo. Il a investi toutes ses économies pour concevoir la voiture de ses rêves à partir de pièces détachées. Notre reporter Raphaël Constant l'a rencontré dans le quartier d'Otigoumé, à Lomé, dans le garage où est entreposé son bolide.
C'est une 4x4. Elle est faite de l'acier inoxydable et du galvan. C'est une buggy sportive.
Ça veut dire quoi?
Une buggy, petit véhicule tout terrain qui sont souvent employés dans les déserts et, ou des zones d'inondation comme ça.
Alors la RAF X, c'est un modèle assez étonnant, bleu et orange, avec un pare-brise, c'est un grillage. Vous avez mis aussi un gyrophare au-dessus. Elle a des roues imposantes qui nous arrivent au-dessus de la cuisse. L'avant de la voiture a un nez pointu.
Souvent, les voitures sportives, elles n'ont pas l'air des voitures normales. Ce sont des engins qui sont comme des monstres, quoi. Les moteurs qui sont à l'intérieur, ils réagissent aussi sauvagement.
Comment vous avez eu l'idée de cette voiture? Un matin, vous vous êtes levé et vous vous êtes dit, tiens, je vais construire une berguie.
J'aime beaucoup d'abord les engins sportifs. J'aime bricoler, concevoir des petits trucs. Mais un jour, on était entre amis en train de discuter et on suivait une vidéo d'un Ghanéen qui avait fabriqué un petit véhicule aussi comme ça. Et il y avait un ami derrière qui dit « Aucun Togolais ne peut jamais réaliser ceci ». Et c'est ce qui m'a plus motivé pour le prouver au monde entier que le Togolais est capable de faire beaucoup de choses, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens que chacun reste dans son trou. Si vous cherchez ce modèle, vous n'allez pas le trouver sur le net. C'est un modèle spécial.
C'est une voiture que vous avez construite à partir de pièces détachées et de matériaux récupérés, c'est ça?
C'est le manque de moyens qui a fait que je suis obligé de récupérer les pièces de la casse. Vous allez voir quelques pièces venant des Titans, des bus, des véhicules, des motos, donc il y a presque tout dedans.
Mais à la base, est-ce que vous êtes mécanicien? Vous saviez construire une voiture à 25 ans?
Non, j'ai eu récemment mon bac en 2016, pas un bac technique. Et après ça, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat puisque depuis le bas âge, en classe de 6e, je savais bricoler, réparer les téléphones des proches et tout ça. Je bricole tout un peu, la mécanique, l'électricité, l'électronique, la peinture, la soudure, presque tout, la conception, tout, je bricole quand même. Même l'électronique, ce que je fais, je n'ai pas une formation pour ça.
Mais alors comment on fait pour construire une voiture de A à Z qui roule, hein, parce qu'elle roule aujourd'hui, avec des pièces détachées, quand on n'a pas de formation?
D'abord, je suis un autodidacte. J'ai un esprit créatif et pour commencer, si je vais chez un mécanicien pour qu'il me répare quelque chose, il suffit de le voir démonter et puis c'est fini. Je capte ça, ce qui est arrivé à la maison, je dois être en mesure de démonter et remonter ça. Et si en démontant un moteur, par exemple, arrivé à un endroit, je suis bloqué, je peux essayer d'aller sur YouTube pour voir comment ça se fait. Donc c'est comme ça que je me suis formé très rapidement.
Et qu'est-ce que vous voulez en faire de cette voiture finalement ?
Je le roule des fois et des fois les artistes chanteurs aussi viennent le louer pour la réalisation de leurs clips. Ça rassemble la foule aussi. Ainsi, je le fais sortir tout de suite, je l'amène en ville, je le garde quelque part. Dans moins de 5 minutes, vous allez voir, la route sera saturée. Tout le monde stationne pour l'apprécier puisque beaucoup l'ont vu dans les journaux, mais ils n'étaient pas convaincus. Beaucoup disaient que c'était du montage. Une fois qu'ils l'ont vu en face, ils disent « Ah, mon frère, j'irai le confirmer aux autres. » Donc, c'est ce qui se passe souvent.
Et Raouf, d'où est-ce que vous venez?
J'ai vécu depuis mon enfance à Kara. Mes parents m'ont confié puisque j'ai perdu mes parents tôt. C'est ce qui a fait que mon parcours a été un peu mouvementé. Donc, je travaille beaucoup et intelligemment aussi. Comme je suis compétent aussi, j'ai beaucoup de clients qui viennent d'un peu partout pour faire réparer leurs engins.
Et de quoi vous rêvez, Raouf?
Mes rêves, c'est d'être un grand entrepreneur. Donc, en premier lieu, je dois me faire former en automécanique. Je peux me lancer dans la construction d'automobiles. Des petits tracteurs moins chers pour aider la population puisqu'il y a plein de terres cultivables au Togo ici, mais pour le cultiver c'est un peu difficile puisque la majorité des jeunes qui sont aptes quittent du village pour aller en ville se chercher. Ils oublient que le champ aussi peut rapporter beaucoup. Le problème est qu'ils vont travailler dur et puis à la fin ça ne donne rien, donc c'est ça qui décourage un peu la population.
Et Raouf, si je vous dis l'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça vous évoque?
En Afrique, si quelqu'un veut commencer quelque chose, ses parents vont lui dire pourquoi aller dépenser toutes ces sommes et à la fin de ta conception, tu n'iras nulle part, c'est ici que tu resteras. Et c'est ce qui fait la faiblesse de la jeunesse puisqu'il n'y a pas un appel. En Afrique, il y a des génies, il y a des hommes bourrés de talent. On se débrouille pour faire gagner l'Afrique aussi avec nos talents.
Raouf Malazoué, où l'intelligence de la main, il a récemment été reçu par le Premier ministre du Togo qui a salué le potentiel de la jeunesse togolaise. Mais ce qui serait bien, c'est que ça donne enfin des ambitions politiques pour la formation professionnelle des jeunes, au lieu de faire confiance au hasard des talents. Hein. Demain, justement, chez 7 milliards de voisins, on mise sur l'emploi des jeunes avec deux super conseillères pour relire vos CV, pour répondre à vos questions sur vos projets professionnels, sur vos recherches d'emploi, sur vos entretiens d'embauche. Bref, c'est vraiment votre émission si vous êtes un jeune diplômé. Alors contactez-nous surtout dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Merci à toute l'équipe. À demain en direct chez 7 milliards. Autour de